l'actualité. Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue, ravie de vous retrouver pour revivre avec vous les événements de la semaine écoulée à travers les reportages de la rédaction de RFI et de nos correspondants dans le monde. Nous irons de Kaboul à Beyrouth en passant par Tunis et Tokyo. Et pour commenter cette actualité, un invité dont le livre est incontournable à l'approche du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Bonjour Elie Tenenbaum.
Bonjour Chantal Laureau.
Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous co-signez avec votre collègue Marc Ecker « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » paru aux éditions Robert Laffont. Un livre référence, vous y décryptez comment, depuis les attentats contre le World Trade Center et le Pentagone, l'Occident et ses alliés luttent contre la menace djihadiste. Il y a clairement un avant et un après 11 septembre 2001.
Oui, absolument. Le terrorisme existait évidemment bien avant le 11 septembre. Il avait été pratiqué par différents groupes participant de différentes idéologies. On se souvient évidemment de la série des attentats dans les années 70 par les groupes palestiniens, des attentats menés par des groupes révolutionnaires d'extrême gauche ou liés à l'ultra-droite. Et même dans les années 90, une forme de terrorisme djihadiste, comme on l'a connu par exemple en Tchétchénie et surtout en Algérie dans la décennie noire. Mais le 11 septembre, par son ampleur, par le nombre de ses victimes, hein, 3000 morts, c'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire, encore à ce jour, et par la nature des dégâts proprement militaires qu'ils ont constitués, la destruction d'immeubles de grande hauteur, les tours jumelles du World Trade Center, une partie du Pentagone, ce sont de types de dégâts qu'on avait l'habitude de voir que dans le cadre de guerre, eh bien ils ont changé la nature de la perception du terrorisme et la nature de la réponse. C'était que vous aviez de la lutte contre le terrorisme avant, qui était l'affaire de quelques services spécialisés, services de renseignement, forces spéciales, mais qui ne concernait pas grand monde finalement. Et du jour au lendemain, pratiquement, le président George W. Bush, américain à l'époque, a déclaré la guerre contre le terrorisme, et là, c'est devenu l'affaire de tous. Aux États-Unis même, c'était plus seulement l'affaire de la CIA et de quelques unités spéciales de la CIA, mais l'affaire de l'ensemble du Pentagone, du département d'État, du département du Trésor. Tout le monde était d'une certaine manière en guerre. Et puis c'était aussi forcément du fait de la place particulière des États-Unis dans l'ordre international à l'époque, l'affaire de tout le monde aussi, de tous les alliés. Et puis au-delà de l'Europe et des alliés traditionnels des Américains, on a vu des pays... peut-être certains de manière plus ou moins honnête, la Russie, la Chine, évidemment les pays du monde arabe, se mettre eux aussi à l'heure de la guerre contre le terrorisme. Donc ça, c'est un moment absolument unique qui a ouvert une séquence, un cycle stratégique. Et avec Marc Ecker, dans le livre, nous, on estime que ce moment stratégique, ce cycle, est aujourd'hui en train de parvenir à son terme, après 20 années de guerre.
Alors, 20 ans de guerre globale contre le djihadisme, pour quel résultat ? Est-ce que la situation s'est améliorée ou au contraire, est-ce qu'elle a empiré ?
Alors, c'est évidemment très... très difficile de tirer un bilan. On essaye de le faire un petit peu dans cet ouvrage. Et on voit que le nombre d'attentats a considérablement augmenté, en fait, dans les 15 ans qui ont suivi le 11 septembre 2001. Ça tend à réduire un petit peu depuis 2015. On a eu un pic en 2015, mais ça a été multiplié par 7 hein, entre 2001 et 2015, le nombre de victimes de morts du terrorisme. Aujourd'hui, ça a réduit de manière assez significative depuis 2015, mais on reste à des niveaux qui sont plus élevés que ceux qui étaient avant le 11 septembre. Si on regarde également le nombre de combattants djihadistes qu'on enregistre dans le monde, là aussi, on a des chiffres, des effectifs. Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres précis, évidemment, parce qu'on parle d'organisations clandestines, mais qu'on estime aujourd'hui 2 à 3 fois plus nombreux que ceux qu'ils étaient avant 2001. Donc de ce point de vue-là, évidemment, le résultat semble plutôt négatif. Et en même temps, le djihadisme d'aujourd'hui n'est plus le même que celui d'il y a 20 ans. Une organisation comme Al-Qaïda a été très largement affaibli dans sa fonction centrale, dans sa capacité en tout cas à projeter de la violence, à organiser des attentats spectaculaires en Occident même, comme c'était le cas pour l'11 septembre, et de même l'État islamique depuis la perte de son califat territorial en zone syro-irakienne, a assez largement perdu de sa capacité à organiser des attentats complexes et meurtriers en Europe même.
Mais la chute du califat, justement, donc instauré par Daesh, c'est juste une bataille laborieusement gagnée par les Occidentaux. Ça ne veut pas dire que la guerre est terminée.
Non. Alors, d'abord, elle n'a pas été gagnée uniquement par les Occidentaux, ce qui est c'est important de dire que ceux qui se sont battus
sur le terrain face à
Daesh. Oui,
il y avait une coalition, et notamment les Kurdes, qui
oui,
ont beaucoup
et ce sont
aimé.
Les troupes irakiennes et kurdes, effectivement, qui, sur le terrain, ont payé le prix du sang, beaucoup plus que les Occidentaux, qui ont offert un appui aérien et puis des forces spéciales, dont il faut évidemment saluer l'action, mais qui étaient tout à fait minoritaires. Mais effectivement, c'est une bataille importante qui a été remportée avec une capacité d'attractivité de Daesh qui a réduit, c'est-à-dire que tous ceux qui voulaient rejoindre le califat territorial pour y construire une société utopique selon leurs propres valeurs, eh bien aujourd'hui ils n'ont nulle part où aller. Alors peut-être que demain on va avoir de nouveaux sanctuaires qui vont réapparaître. Mais de fait, ça réduit la capacité d'attraction de Daesh, mais aussi sa capacité à s'organiser, à avoir des camps d'entraînement, à pouvoir avoir un sanctuaire d'où ils peuvent planifier, également financer, parce que disposer d'un territoire, ça permet également de disposer d'un certain nombre de revenus réguliers. Et donc tout ça, ça renforçait particulièrement Daesh et ça le rendait extrêmement dangereux. Aujourd'hui, l'idéologie reste là, Daesh reste présent, il se restructure sous la forme plutôt d'une guérilla, d'une insurrection, et en Irak et en Syrie, et puis ailleurs dans le monde, avec tout un tas de filiales qui ont prêté allégeance au calife, à l'ancien calife et au nouveau calife, le successeur d'Abou Bakr al-Baghdadi. Et d'une certaine manière, vous avez une persistance de la menace, mais qui, aujourd'hui, a des capacités matérielles bien moindres qu'elles n'étaient il y a 5 ou 6 ans.
Sept jours dans le monde.
Elie Tenenbaum, je vous propose maintenant de revenir sur l'actualité internationale de la semaine marquée par l'avancée inexorable des talibans en Afghanistan alors que le retrait total des troupes étrangères sera achevé le 31 août. Mardi, un attentat à Kaboul a visé le ministre afghan de la Défense qui en est sorti indemne. Opération revendiquée mercredi par les talibans qui ont promis de nouvelles attaques contre des responsables afghans. Et hier, c'est le chef de la communication du gouvernement qui a été assassiné dans la capitale afghane. Parallèlement, les talibans resserrent l'étau sur 3 capitales provinciales, Herat, Kandahar et Lashkargah. À Kaboul, les précisions de Sonia Ghezali.
L'aviation afghane mène des raids aériens dans la ville de Lashkargah. Elle va même sûrement les intensifier dans les prochains jours. Objectif, repousser les centaines de combattants talibans qui ont réussi à pénétrer dans la ville. D'où cet appel de l'armée afghane lancé à la population afin qu'elle quitte Lashkargah le plus vite possible. Le ministère de la Défense à Kaboul dément cette information qui a pourtant bien été diffusée par des radios locales selon des journalistes sur place. Les talibans se servent de la population comme de boucliers humains, affirment des militants des droits de l'homme qui s'alarme de la situation sur place pour les civils. Un journaliste à Lashkargah, joint par téléphone, nous a affirmé que de nombreux civils avaient été blessés dans des raids aériens. Nombreux ont été tués, affirme-t-il, tendant son téléphone vers sa fenêtre pour nous faire écouter le bruit des explosions et des tirs qui retentissent à l'extérieur de chez lui. Dans le centre-ville, les talibans s'affichent pieds nus, lance-roquettes et kalachnikov à l'épaule, se laissant prendre en photo avec fierté. Des corps sans vie jonchent les rues de Lashkargah, nous confie notre confrère afghan sur place. Des milliers de familles ont fui leur village dans les districts tombés sous le contrôle des talibans. Elles ont trouvé refuge dans la capitale provinciale, sans s'attendre à ce que celle-ci devienne la nouvelle ligne de front.
Et l'évolution de la situation en Afghanistan est à suivre dans les journaux de RFI. Elie Tenenbaum, quel est le pourcentage du territoire afghan contrôlé aujourd'hui par les talibans ?
En termes de territoire, on est aujourd'hui, ça, c'est évidemment une carte qui évolue tous les jours, mais à 70 à 80% du territoire qui est contrôlé par l'insurrection ou sous influence ou sous forte influence de l'insurrection. Pour vous
Territoire
donner,
essentiellement rural.
oui, c'est surtout le territoire rural dont les talibans sont issus et qu'ils contrôlent aujourd'hui, mais ça a évolué avec une offensive quand même qui a été extrêmement spectaculaire dans les 3 à 4 derniers mois, hein. Le 14 avril dernier, Joe Biden annonçait le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. À l'époque, on considérait qu'il y avait environ 70 districts sur 400 qui étaient contrôlés par les talibans, effectivement des districts essentiellement ruraux. Et aujourd'hui, on est à plus de 220-230 districts sur 400, auxquels il faut en rajouter un peu plus d'une centaine qui sont sous forte influence. Et donc là, ce sont des petites villes qui commencent à être aujourd'hui occupées. Et puis, vous l'avez dit, les grandes villes, notamment dans le sud et dans l'ouest du pays, mais également au nord, qui sont aujourd'hui véritablement assiégés, encerclés. Lashkarga sera sans doute la première à tomber dans le Helmand, qui est un fief historique des talibans dans le sud.
Et la chute
On
de
attend.
Kaboul, à votre avis, est-ce que c'est une question de semaines ou de mois?
C'est aussi une question de la volonté des Américains ou pas de remettre un petit peu de billes dans la machine, si vous voulez. C'est-à-dire que si on a vu au cours des derniers jours les Américains refaire de nouvelles frappes aériennes depuis l'étranger, ce qui évidemment est compliqué puisque la base aérienne de Bagram dans le pays a été évacuée, mais sans doute depuis des bases dans le Golfe. Mais si les Américains peut-être maintiennent voilà un cordon ombilical suffisamment pour empêcher une chute de Kaboul, on pourra tenir peut-être quelques mois, voire un peu plus le temps que la situation évolue. Et si on a un lâchage complet des Américains, la dynamique aujourd'hui semble telle que on voit mal comment Kaboul seul pourrait tenir très très longtemps. Et là, ça serait évidemment une question de semaines.
Est-ce que les Américains et l'OTAN auront mené 20 ans de guerre en Afghanistan pour rien?
C'est un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler. Il faut bien se souvenir quand même de la raison pour laquelle les Américains et leurs alliés sont venus en Afghanistan en premier lieu. C'était les attentats du 11 septembre et c'était la présence en Afghanistan même, soutenue par les talibans, d'Al-Qaïda avec ses camps d'entraînement qui préparaient depuis ce territoire-là, ce sanctuaire, des attentats à l'étranger.
Mais justement, est-ce qu'il ne fallait pas partir d'Afghanistan après l'élimination en 2011 au Pakistan de Ben Laden par les forces spéciales américaines?
Bon, la mort de Ben Laden avait, on le sait aujourd'hui, un faible impact organisationnel sur Al-Qaïda, qui s'était de toute façon depuis très longtemps organisé pour faire sans son émir fondateur. Donc c'était une valeur surtout symbolique. En revanche, voilà, la question était de savoir est-ce que l'équivalence qui avait été établie en 2001 entre les talibans et Al-Qaïda en disant on ne peut pas distinguer l'un de l'autre, c'était la phrase de George Bush en disant nous ne ferons aucune distinction entre ceux qui ont mené les attaques et ceux qui les ont hébergés, eh bien est-ce que ça c'était quelque chose sur lequel on pouvait revenir en 2020 à Doha dans le cadre des accords de paix signés par les Américains avec les talibans, ils ont postulé l'idée que les talibans pouvaient éventuellement revenir au pouvoir en Afghanistan. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est un échec de la guerre contre les talibans, mais sans pour autant renouer leur alliance avec Al-Qaïda, et auquel cas on n'aurait pas forcément un retour d'Al-Qaïda dans le pays. Cependant, il y a beaucoup de raisons de douter de l'honnêteté, on va dire, des engagements des talibans, puisque on continue à avoir des liens forts entre Al-Qaïda, et notamment Al-Qaïda dans le sous-continent indien, et les talibans en Afghanistan. Maintenant, là, voilà, la question sera de savoir, on va sans doute avoir des talibans qui vont faire profil plutôt bas dans un premier temps vis-à-vis de leurs liens avec la mouvance djihadiste internationale. Mais d'ores et déjà, on voit des djihadistes s'agiter dans la sous-région, au Cachemire, et puis surtout en Asie centrale, au Tadjikistan, même au Kyrgyzstan et en Ouzbékistan, qui sont extrêmement inquiets sur l'impact que la victoire des talibans pourrait avoir dans toute la sous-région et puis au-delà de ça l'impact que ça aura sur l'ensemble des groupes djihadistes dans le monde qui verront évidemment un encouragement pour leur montrer que oui, une victoire est possible, y compris face à un régime soutenu pendant longtemps et à bout de bras par la première puissance mondiale.
Élie Tenenbaum, on va partir maintenant pour le Liban. Le pays a observé mercredi une journée de deuil national, un an après la tragédie du port de Beyrouth. L'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium avait fait plus de 200 morts, quelques 6000 blessés et détruit une partie des faubourgs de la capitale. Les Libanais ont manifesté leur douleur et leur colère face à une enquête qui n'avance pas, à l'impunité dont jouissent les responsables de la catastrophe et à la descente aux enfers que traverse le pays confronté à une crise économique sans précédent. Le reportage à Beyrouth de Nicolas Falaise.
Comment continuer à vivre avec une monnaie qui a perdu 90% de sa valeur, faisant flamber les prix et chuter les revenus? Une équation qui vide les chariots de supermarchés, comme celui que pousse Joumana, institutrice à la retraite dans un quartier populaire du sud de Beyrouth.
Ça ne suffit pas si on n'a pas d'autres ressources. Moi, j'ai mon frère qui m'envoie des dollars, mais ça reste limité. Le gouvernement est pourri, il n'écoute pas son peuple. Peut-être qu'il veut le tuer et prendre un autre peuple. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Et maintenant, je me dépêche pour rentrer avant la coupure d'électricité. J'espère avoir le temps de monter mes sacs au 6e étage.
Les coupures d'électricité, autre fléau du quotidien. Et comme Nahed, les Libanais redoutent de voir leur situation se dégrader encore.
Avant, tu pensais à l'avenir. Maintenant, tu penses au lendemain. Est-ce que tu vas réussir à nourrir ta famille? Et même, est-ce qu'on va te laisser vivre dans ce pays?
Une étude publiée le mois dernier à Beyrouth montre que les ménages libanais dépensent désormais 5 fois le salaire minimum pour leurs seuls besoins alimentaires.
Et comme si la situation n'était pas assez dramatique, les tensions sont montées au sud du Liban jeudi après des raids israéliens de représailles à la chute de roquettes sur la Galilée. RFI Beyrouth, Paul Khalife.
Pour le président Michel Aoun, les raids israéliens constituent une violation claire et dangereuse de la résolution 1701 de l'ONU et une menace directe de la sécurité et de la stabilité du sud du Liban. L'entrée en action de l'aviation israélienne au sud est en effet un développement inédit. C'est la première fois depuis 2006 que des avions frappés de l'étoile de David mènent des raids dans cette région du pays. La tension est montée ces dernières semaines au sud Liban après des années de calme et les milieux proches du Hezbollah ne cachent pas leur inquiétude. Ils soupçonnent Israël de vouloir changer les règles d'engagement conclues tacitement entre les deux ennemis. Des règles qui stipulent une suspension des hostilités transfrontalières. Israël aussi a ses raisons d'être inquiet. Le tir non revendiqué de 3 roquettes contre le nord de la Galilée mercredi est le second incident du genre en moins d'un mois. Le 20 juillet, 2 projectiles étaient partis du sud Liban et ce tir avait été interprété comme une riposte à l'intensification des raids aériens israéliens contre des positions des alliés de l'Iran en Syrie. La multiplication de ces incidents laisse craindre la réutilisation du sud Liban comme caisse de résonance dans le bras de fer que se livrent l'Iran et Israël à l'échelle de la région.
Et hier, le Hezbollah a revendiqué le tir de nouvelles roquettes sur l'État hébreu, tandis qu'à Jérusalem, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, déclarait « Israël est prêt à attaquer l'Iran ». L'Iran où le nouveau président, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi, a été investi jeudi pour 4 ans au Parlement. Ebrahim Raisi, qui succède au modéré Hassan Rouhani, s'est dit ouvert à tout plan diplomatique pour une levée des sanctions américaines qui étrangle l'économie du pays, tout en prévenant que l'Iran ne céderait pas devant la pression et les sanctions. RFI Téhéran, Siavosh Ghazi.
Dans son premier discours en tant que président, Ebrahim Raisi a insisté sur le droit de l'Iran à développer son programme nucléaire et a exigé la levée de toutes les sanctions économiques contre le pays.
Le programme nucléaire de la République islamique est totalement pacifique. La politique de pression et de sanctions n'obligera pas le peuple iranien à renoncer à ses droits. Les sanctions contre le peuple iranien doivent être levées et nous soutiendrons tout plan qui permettra d'assurer cet objectif.
Ebrahim Raisi a également défendu la politique de l'Iran dans la région.
La puissance de la République islamique apporte la sécurité, la paix et la stabilité dans les pays de la région et sera utilisée seulement contre les puissances oppressives.
Le nouveau président iranien devrait choisir les membres de son équipe parmi les conservateurs hostiles à l'Occident, signe qui ne trompe pas. Lors de la cérémonie au Parlement, le représentant de l'Union européenne, Enrique Mora, a été placé au second rang derrière les représentants du Hamas, du Hezbollah ou encore du djihad islamique palestinien.
Elie Tenenbaum, faut-il s'alarmer de cette montée des tensions entre l'État hébreu et l'Iran, d'autant que la semaine a également été marquée par une série d'incidents dans le Golfe impliquant, semble-t-il, la République islamique ?
Oui, absolument. Après, c'est un cycle auquel on commence à être malheureusement habitué. On l'avait vu en 2019 avec les tirs, les frappes de drones sur l'Arabie Saoudite, la chute d'un drone américain. On se souvient en 2020, évidemment, la situation qui a impliqué l'Irak même avec l'assassinat par les Américains du général iranien Qassem Soleimani. C'est finalement une forme de dialogue armé extrêmement meurtrier, mais qui demeure tout de même sous le seuil de la guerre ouverte entre les différents acteurs de la région. Et il faut évidemment pas tomber dans le piège de voir ça uniquement à travers les lunettes de Israël versus Iran. Chacun des deux pays, évidemment, a désigné l'autre comme une forme d'épouvantail géopolitique, mais derrière, on a bien la mise en place d'alliances oppositionnelles avec un axe qui va de Téhéran, qui passe par Bagdad, même si aujourd'hui l'Irak est un petit peu moins sur le devant de la scène. Damas, avec le régime de Bachar al-Assad, qui est aujourd'hui très largement entre les mains de l'influence iranienne, qui n'est modérée que par une influence russe. Et puis le Liban avec le Hezbollah. Et puis il faut rajouter quelques autres acteurs comme le Yémen. Et en face, vous avez un axe plutôt poussé par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et dans lequel Israël, au même titre que d'autres comme l'Égypte par exemple, s'insère. Et donc c'est bien dans ce système d'alliances et de confrontations géopolitiques qu'on est confronté.
La Biélorussie dans l'actualité de la semaine. Il était porté disparu depuis lundi matin. Un jeune opposant biélorusse, Vitali Tchitchov, parti faire un jogging dans les rues de Kiev, en Ukraine, a été retrouvé mort, pendu, mardi, dans un parc de la capitale ukrainienne. Vitali Tchitchov dirigeait une ONG qui aide les Biélorusses victimes de répression à fuir leur pays. RFI Kiev, Stéphane Sion.
La rumeur de la disparition de Vitali Tchitchov, le directeur de la maison des Biélorusses de Kiev, a provoqué de grandes inquiétudes dès lundi soir. Et ce mardi, le ministère de l'Intérieur ukrainien confirme que le corps de cet activiste biélorusse a bien été retrouvé pendu dans un parc du centre de Kiev, tout proche de son lieu d'habitation. Le téléphone portable de l'activiste et des effets personnels ont été retrouvés à proximité, tandis que la police ukrainienne a ouvert une enquête criminelle évoquant la possibilité d'un meurtre déguisé en suicide. Récemment, Vitali Tchitchov avait évoqué à des proches qu'il se sentait suivi. Et dans ce contexte, les regards se tournent vers la Biélorussie, où une véritable chasse aux opposants a été engagée. Lundi, le mari de la sprinteuse Kristina Tsimanouskaya, que les autorités biélorusses ont voulu rapatrier de force des JO de Tokyo, s'est cru suffisamment en danger pour fuir la Biélorussie. Justement, c'est à Kiev, en Ukraine, qu'il a trouvé refuge, comme des milliers de ses compatriotes ces derniers mois.
Kristina Tsimanouskaya, qui s'est vue octroyer un visa humanitaire par la Pologne. Cette sprinteuse biélorusse avait été conduite à l'aéroport de Tokyo en plein Jeux Olympiques pour un retour forcé en Biélorussie après avoir critiqué des entraîneurs de sa délégation. Mais la jeune femme avait refusé d'embarquer par crainte d'être mise en prison dès son arrivée. La Grèce, frappée par une troisième vague de chaleur en l'espace d'un mois, les températures ont grimpé cette semaine jusqu'à 45 degrés dans certaines régions du pays. Les autorités parle de la pire canicule depuis 30 ans. Le reportage de notre correspondant en Grèce, Joël Brunner.
En Grèce, en particulier au cœur de la journée, la chaleur est à présent souvent étouffante, pour ne pas dire accablante. Aris Dikomialis est à la tête d'une agence de tourisme de l'île de Nisiros, dans l'est du pays.
Ces derniers jours, nous avons subi des températures extrêmes, c'est-à-dire qu'il fait particulièrement chaud, et cela nous cause des problèmes pour travailler dans des conditions normales.
Irini Parou profite de sa soirée au restaurant, mais en journée, elle fait particulièrement attention à la météo, car elle est en charge de deux enfants en bas âge.
Aux heures où les températures sont les plus élevées, nous restons à la maison avec l'air conditionné, parce qu'il fait trop chaud, et nous essayons aussi d'aller ensuite à la plage pour nous rafraîchir.
Poppy Karakontaninou travaille cet été dans un magasin de location de véhicules sur le port de Mandraki, la ville principale de Nisiros.
À Nisiros, la canicule est encore à peu près supportable grâce au petit vent qui souffle ici, heureusement. Mais il y a d'autres endroits comme Rhodes ou Athènes où les gens sont confrontés à des tas de problèmes à cause de cette même canicule qui cause des incendies.
Si les incendies sont courants chaque été en Grèce, l'intensité de la canicule actuelle a en effet particulièrement favorisé leur multiplication ces derniers jours à travers le pays.
Et les incendies en Grèce font toujours rage et se rapprochent d'Athènes. Évolution à suivre dans les journaux de RFI et sur notre site internet.
Sept jours en Afrique.
Nous sommes toujours en compagnie d'Elie Tenenbaum qui signe avec Marc Ecker « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » paru chez Robert Laffont. Direction à présent la Tunisie d'où quelques 4000 personnes sont parties en juillet pour rejoindre l'Italie. Près de 60% de ces migrants sont des Tunisiens, on compte parmi eux 20% de mineurs. Un phénomène qui s'amplifie selon les organisations locales de défense des droits des migrants. Charlotte Cosset est allée à la rencontre de ces jeunes qui n'ont qu'une idée en tête, partir.
Il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour trouver des jeunes qui pensent à partir dans le quartier de Babswika. Maher, 25 ans, habite les faubourgs de la Médina. Il n'a que cette idée en tête.
Évidemment, j'aimerais bien émigrer pour améliorer ma situation, comme tout le monde ici. Les gens veulent partir de n'importe quelle manière, même clandestinement.
Et ça vous fait pas peur ?
C'est quoi le problème ? Si je me rends mère, ça ne me dérange pas. De toute façon, c'est comme vivre ici, ça ne ferait pas de différence. Si Dieu le décide ainsi, je mourrai.
Ils sont très nombreux dans ce cas.
Les jeunes de mon quartier sont tous partis. Il y a ceux qui sont arrivés et d'autres qui sont morts.
Maher est grand, le teint sombre, des tatouages sur les jambes. Il n'a pas de diplôme et ne trouve pas de travail. Divorcé, faute de pouvoir alimenter son foyer, il souhaite une vie meilleure pour sa fille.
Moi-même, si j'avais un garçon, je l'enverrais à l'étranger, parce qu'ici, c'est comme être en prison. Ma fille, si je vois qu'il n'y a pas d'avenir pour elle, je la ferai partir clandestinement, et s'il le faut, je l'accompagnerai dans le bateau.
En juillet, ce sont près de 4000 migrants partis de Tunisie qui sont arrivés sur les côtes italiennes.
Jusqu'au 25 juillet dernier, on parlait de la Tunisie, berceau des printemps arabes comme le seul pays de la région ayant à peu près réussi sa révolution il y a 10 ans. Mais voilà, le 25 juillet, le processus s'enraye. Le président Kais Saied invoque la constitution pour s'emparer de l'ensemble du pouvoir exécutif. Il suspend le parlement et congédie le premier ministre. Elie Tenenbaum, est-ce que ce coup de force du président Kais Saied fragilise le pays ? Est-ce qu'il y a un risque que les groupes djihadistes toujours aux aguets tentent de profiter de la situation?
Le risque est toujours présent. La Tunisie a fait partie des pays qui ont produit le plus de volontaires à partir sur les théâtres de l'État islamique en zone syro-irakienne, mais également en Libye. On compte plusieurs milliers de Tunisiens qui se sont rendus sur ces théâtres extérieurs et jusqu'à 25 000 velléitaires, c'est-à-dire des Tunisiens qui ont cherché à s'y rendre et qui ont été bloqués par les forces de sécurité, les forces de police et les forces armées, les services de renseignement. Donc c'est dire pour un si petit pays à quel point l'idéologie djihadiste avait trouvé de nombreux adhérents. C'est évidemment lié à la situation économique, aujourd'hui sanitaire également extrêmement précaire du pays, à sa fragilité politique, mais aussi au choix d'un certain nombre de djihadistes qui avaient été libérés après la chute de Ben Ali, au moment où on avait ouvert les prisons et où les prisonniers politiques avaient été libérés, d'utiliser la Tunisie non pas comme un théâtre d'opération, mais comme une base arrière avec des activités essentiellement de prêche idéologique et des activités sociales qui, on en parle dans notre ouvrage, avaient permis de développer largement cette base du djihadisme. Ça avait malgré tout porté ses limites. En 2015, on se souvient de la série d'attentats au musée du Bardot, sur la plage de Sousse, extrêmement meurtriers. Les assassinats également d'un certain nombre de personnalités politiques. Et les djihadistes avaient dû battre un petit peu en retraite, mais ça reste, on va dire, un état fragile, et les djihadistes sont toujours, comme vous le disiez, aux aguets.
Des djihadistes aux aguets en Tunisie, des djihadistes qui passent à l'acte au Tchad et au Burkina Faso. Au moins 26 militaires tchadiens ont été tués et plusieurs blessés par des combattants de Boko Haram jeudi dans la région du lac Tchad. C'est la première attaque de cette ampleur depuis que Mahamat Idriss Déby a pris le pouvoir après la mort de son père Idriss Déby. Et puis au Burkina Faso, 15 militaires, 11 civils et 4 volontaires pour la défense de la patrie ont été abattus mercredi par des hommes armés lors de l'attaque de deux villages. À Ouagadougou, les précisions de Yaya Boudani.
Deux villages situés dans la région du Sahel, près de la frontière nigérienne, ont été les cibles de groupes armés terroristes, selon le ministère burkinabé de la Défense. Après avoir abattu les populations civiles, les assaillants mettent le feu aux concessions avant de repartir avec le bétail. Alertés, les militaires du détachement de Markoy et des volontaires pour la défense de la patrie font mouvement vers les villages attaqués. Durant l'opération, ils tombent dans une embuscade près du village de Tokabangou, selon une source sécuritaire. Les combats éclatent entre les soldats burkinabés et ces hommes armés. D'autres soldats de Gorom Gorom viennent en renfort. Les soldats burkinabés parviennent alors à repousser les assaillants après des heures de combat. On dénombre plusieurs morts dans les rangs burkinabés. Une dizaine de terroristes est neutralisée, selon un communiqué du ministère de la Défense. Ousseini Tamboura, le porte-parole du gouvernement, salue le courage des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie. Il assure qu'aucune vie perdue dans le cadre du combat contre le terrorisme ne restera impunie.
Elie Tenenbaum, comment expliquez-vous que 8 ans après l'intervention militaire de la France au Mali, la situation sécuritaire au Sahel, pas seulement au Mali donc, mais on le voit hein, au Burkina Faso, au Niger et dans le bassin du lac Tchad, n'ait cessé de se dégrader?
Bien parce que vous aviez une intervention militaire française qui a produit ses résultats en termes de destruction des sanctuaires djihadistes, mais elle n'a pas été suivie de la phase, on va dire, de reconstruction politique qui malheureusement ne dépendait pas de la France, qui dépendait très largement des partenaires locaux et qui dépendait de la capacité de ces régimes sahéliens, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou même au Tchad, à offrir quelque chose, une alternative politique, sociale, économique, aux populations qui avaient amené les djihadistes à cet endroit-là.
Alors, faut-il négocier avec les djihadistes? La question s'est posée en Afghanistan, les Américains s'y sont résolus. Elle se pose au Sahel, et là, les avis divergent. Qu'est-ce que vous en pensez?
La négociation demeure un outil important dont on ne peut pas se passer au sein de voilà d'une politique de sécurité nationale. Il faut le regarder sans avoir d'idées préconçues. Ce n'est pas la panacée, sans naïveté non plus, mais évidemment on ne fait la paix qu'avec ses anciens adversaires d'une certaine manière. La question est de savoir sur quelle base on peut négocier, qui sont les groupes et éventuellement les personnalités que l'on considère comme réconciliables, sur lesquelles on peut avoir un terrain d'entente. Évidemment, dans la propagande djihadiste, les objectifs qui sont émis, qui sont fixés, ne laissent que peu de place à un terrain d'entente. Mais dans la réalité, quand on regarde des raisons pour lesquelles tel ou tel sous-chef ou sous-groupe a pris les armes, c'est en général quelque chose des objectifs beaucoup plus prosaïques finalement que les grandes déclarations djihadistes pour un califat universel face auquel évidemment il ne semble y avoir aucune négociation possible. Donc tout dépend avec qui, dans quel contexte, et puis évidemment à partir de quel rapport de force. La négociation en Afghanistan, elle a été faite malheureusement trop tard, à un moment où les talibans étaient déjà en position de force. Aujourd'hui au Sahel, ça risque d'être un petit peu la même chose si on négocie maintenant, à l'heure où la France a annoncé le retrait de Barkhane, et d'une certaine manière, le vent va plutôt dans le sens des djihadistes. Le résultat de la négociation risquera d'être sans doute moins satisfaisant.
Une bouffée d'oxygène dans ce contexte morose. Le Burkina Faso a vécu jeudi un grand moment. Le pays a décroché la première médaille olympique de son histoire grâce à Hugues Fabrice Zongo, troisième au triple saut au JO de Tokyo. Hugues Fabrice Zongo, un peu déçu de n'avoir obtenu que le bronze, mais il mesure le symbole que représente cette médaille pour lui et pour son pays. Il l'a expliqué à Olivier Pron.
Franchement, la médaille, elle vaut son poids. Elle est lourde.
Elle est belle.
Ouais, elle est belle aussi. Et c'est la première médaille pour le Burkina. On ne va pas cracher dessus, hein. C'est vraiment très très bien.
Tout ça, c'est de l'expérience à acquérir.
Complètement, c'est ça.
Ça sert aussi à ça.
C'est ça, et ça forme un homme aussi. Ouais, c'est bien.
Il n'y a pas d'équivalent aux Jeux Olympiques.
D'équivalent, bah, les Jeux Olympiques, c'est quand même, j'allais dire, le rendez-vous en fait que tout sportif ne voudrait pas manquer. Et avoir une médaille, c'est vrai que c'est extrêmement important. Je suis quand même satisfait d'être parmi ces médaillés. J'aurais été plus content parce que j'aurais produit mon meilleur niveau et tout cela. Voilà. Mais là, vraiment, j'étais en deçà de tout ce que j'ai fait toute cette année. En fait. Et c'est ça qui fait que c'est un peu plus douloureux. En fait. Mais sinon, la médaille, elle est belle et c'est la première du Burkina. Le pays est en effervescence. Et donc, franchement, c'est une bonne chose.
Jours en France.
Avec des voyants au rouge sur le front du Covid, les contaminations dues au variant Delta flambent. Après la Martinique et la Réunion, la Guadeloupe est à son tour reconfinée depuis mercredi pour 3 semaines. Soulagement pour le gouvernement, le Conseil constitutionnel a validé jeudi l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants, mais il a retoqué l'isolement obligatoire à domicile des cas positifs. Alors dès lundi, il faudra donc montrer le précieux QR code pour dîner au restaurant, boire un verre au café, s'installer en terrasse et même pour entrer dans les hôpitaux, sauf en cas d'urgence. Comment réagissent les restaurateurs, déjà bien impactés par la pandémie? Le reportage à Paris de Mathieu Limongi.
À l'heure où la terrasse se remplit, Manon reprend son service après une courte pause. Pour cette responsable d'une brasserie en banlieue parisienne, c'est l'incompréhension.
On a tout fait, on a mis les mesures, 1 mètre de distance entre les tables. Et là, ils nous rajoutent ça même à l'extérieur, donc c'est... Je dirais pas que c'est de la colère, mais c'est de l'agacement. Surtout que nous, on travaille beaucoup, on est une grosse brasserie. On va devoir scanner tout le monde un par un, donc ça va nous prendre du temps.
Une charge de travail en plus et des clients en moins, avec une fréquentation déjà en berne depuis le début de la pandémie, Manon et son équipe craignent de voir leur terrasse se vider un peu plus.
On a déjà moins de gens depuis qu'on parle de pass sanitaire, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'était à partir du 1er août. Et il y en a beaucoup qui veulent pas se prendre la tête, quoi, qui vont se dire ça sert à rien de sortir. On sait très bien qu'il y en a qui vont pas vouloir ou qui sont vaccinés mais qui voudront pas monter le pass. De toute façon, ça va nous faire une baisse de clientèle pendant un certain temps.
Et si pour l'instant aucun appel à la mobilisation nationale des restaurateurs n'a été lancé, dans le nord-ouest de la France, une 40aine de restaurants ont d'ores et déjà décidé de ne pas appliquer la nouvelle loi.
Elie Tenenbaum, avec cette crise sanitaire, est-ce qu'on n'assiste pas à un débat du même ordre que celui que la lutte antiterroriste avait fait éclater en France après les attentats du Bataclan en 2015? Débat entre les défenseurs des libertés individuelles et les défenseurs d'une législation d'exception au nom de la sécurité dans le cas du terrorisme ou au nom de la protection de la santé dans le cas du Covid?
Oui, ce qui est sûr, c'est que effectivement, alors les deux situations sont très différentes dans leur nature, mais on a dans les deux cas cette interrogation fondamentale, presque philosophique, dans le dilemme entre sécurité et liberté, et on voit qu'il s'agisse du terrorisme ou de la situation sanitaire, le balancier ces dernières années est très largement évolué en faveur de la sécurité. C'est-à-dire que dans les années qui ont suivi les attentats de 2015, les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre en France, eh bien, vous avez eu une accumulation de lois, de mesures qui visaient à renforcer l'efficacité des pouvoirs de police via des actions préventives qui, dans un certain nombre de cas, ont été d'ailleurs sanctionnées négativement par le Conseil constitutionnel. Ça n'a pas été le cas pour le pass sanitaire cette fois-ci, mais on a bien un arbitrage difficile qui teste aussi la résilience de nos sociétés. La pandémie, on a beaucoup parlé de résilience, mais la première fois qu'on a vraiment évoqué ce terme était lié aux attentats et à la manière dont ces crises, ces stress testent finalement notre démocratie et ses valeurs.
Vous écrivez dans votre livre que si l'on ne devait retenir qu'une leçon de cette guerre de 20 ans, c'est qu'il faut autant se méfier de nos surréactions et ambitions démesurées que des sous-estimations de la menace. La menace, justement, est-ce qu'elle a baissé aujourd'hui en France, la menace djihadiste, ou est-ce que la surveillance des services de police, de sécurité est plus efficace ?
La menace s'est transformée. Elle n'a pas forcément réduit en tant que telle, mais elle n'est plus la même qu'en 2015, et en 2015, elle n'était déjà plus la même qu'en 2001, c'est-à-dire que vous n'avez plus forcément les grandes organisations type Al-Qaïda capables de mener des attentats et de projeter de la violence comme ça avait été le cas dans les années 2000. On n'a plus forcément l'État islamique là aussi capable d'envoyer des commandos comme ça avait été le cas au moment du 13 novembre dans les rues de Paris, mais on a, pour ce qui est de la France, et notamment de la France métropolitaine, une menace plus diluée, davantage individualisée, qui dépend d'un certain nombre d'individus qu'on dit radicalisés ou ayant basculé vers une forme d'extrémisme violent. Et finalement, c'est ça la forme principale que prend le terrorisme aujourd'hui, une forme face à laquelle il est extrêmement difficile de se prémunir, parce que évidemment vous avez des outils, des fichiers de personnes signalisées pour radicalisation, mais qui aujourd'hui font plus de 15 000 noms. Donc vous pouvez pas, dans un état de droit, évidemment, utiliser le principe de précaution et arrêter des gens pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, mais pour des simples soupçons sur des comportements ou des idéologies qui pourraient être les leurs. Donc là, aujourd'hui, on est finalement face à une forme de limite de notre appareil de sécurité. Le risque zéro n'existe pas, et c'est une erreur que de penser qu'on pourra l'atteindre. Mais aujourd'hui, on n'a pas de structure, on va dire, djihadiste. Ça pourrait changer si l'Afghanistan évolue vers un nouveau sanctuaire, par exemple. Mais aujourd'hui, on n'a pas de structures djihadistes capables de mener, on va dire, des attentats extrêmement complexes et meurtriers. Ça ne veut pas dire que certains attentats simples ne peuvent pas être meurtriers. On l'a vu au moment des attentats de Nice, par exemple. Mais la menace, on va dire, est peut-être moindre qu'elle était en 2015. Mais on n'est jamais à l'abri, évidemment, d'un attentat. même réduit, mais qui choque la population. On se souvient, il y a bientôt un an, de l'affaire de Samuel Paty.
Merci beaucoup, Elie Tenenbaum, d'avoir été notre invité. Il faut lire « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle », édité chez Robert Laffont. C'est un livre passionnant que vous avez écrit avec votre collègue de l'IFRI, Marc Ecker. On va se quitter en saluant la mémoire d'un géant du Zouk, le leader du groupe Kassav. Jacob Desvarieux est mort des suites du Covid le week-end dernier au CHU de Pointe-à-Pitre. À Tokyo, sa médaille d'or par équipe autour du cou, le judoka guadeloupéen Teddy Riner a tenu à lui rendre hommage, propos recueillis par l'un de nos envoyés spéciaux au JO, Eric Mamrut.
Jacob Desvarieux, un immense chanteur pour nous, antillais. C'est un chanteur qui a œuvré pour la Guadeloupe, pour tous les antillais. C'est un chanteur et un groupe qui nous a fait connaître à l'international. On a perdu une immense voix de l'afro-caribéen. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on lui fasse honneur, qu'on lui fasse une belle cérémonie. Et bah, Jacob, si tu nous entends, repose en paix.
Merci à Vanessa Ravensky qui a réalisé cette émission que vous pouvez écouter en podcast sur notre site internet RFI.fr, sur votre téléphone avec l'appli RFI Pure Radio. N'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. Samedi prochain, c'est Amélie Beaucourt que vous retrouverez à ce micro. Bonne semaine à tous et portez-vous bien.
C'est où celle qui est menée, la peau n'est pas qu'à trouver. Loi de nous qui est goûtée, tant qu'ils j'en la mettre ici.
Tout à l'heure sur RFI.